et vous écoutez France Culture. Je crois que tout véritable soulèvement est sexuel. La littérature déchaîne ce qui nous limite. C'est pourquoi elle est tellement désirable. Yannick Hennel et pas d'erreur, c'est mauvais genre. L'aventure, ça n'est pas ce qui advient, mais ce qui survient, moi, l'événement que l'avènement. Quelque chose, enfin, brise le cours, part sans savoir. La littérature est souvent le lieu de pareils soulèvements. D'où le titre de la revue Aventure au pluriel, créée aux éditions Gallimard par notre invité, le romancier essayiste Yannick Hennel. Une revue qui inaugure une ample enquête parmi les plumes actuelles sur l'écriture des scènes de sexe. Mauvais genre, on a eu la truffe excitée. Débat dans cette émission de Marie de France à Coralie Trinity, cela fait 1000 ans qu'elles en écrivent en français des scènes de sexe. Paru chez Bouquin, une vaste anthologie fait le point sur les écrits érotiques de femmes. Une tournée des Grandes Duchesses de l'Eros où Mauvais genre a fait son choix. Chronique en second temps d'émission, signée Céline Duchesnay, Esther Teillard et Christophe Beer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre en ce dimanche consacré entièrement à la question de l'écriture érotique et ce à l'occasion de deux événements fort considérables. Le premier, le numéro 1 de la revue Aventure au pluriel dirigée par Yannick Hennel aux éditions Gallimard avec notamment une vaste enquête. Écrivez-vous des scènes de sexe? 65 autrices et auteurs répondent. On fera un peu le point sur ces réponses. Si ça nous permet de classer un petit peu les angles, les problématiques, les désirs et la vision qu'on a aujourd'hui en littérature de l'acte sexuel tel que la littérature nous le livre. Et puis également, dirigé par Romain Henriquez et Camille Koskas, écrit Érotique de femme, une nouvelle histoire du désir, de Marie de France à Virginie Despentes. Anthologie très importante, c'est aux éditions Bouquin, puis on dira quelques mots de James Joyce, Giacomo Joyce, avec une nouvelle traduction postfacée par Yannick Hennel aux éditions Multiples. Bonjour Yannick Hennel.
Bonjour.
Alors la question était de savoir comment faisons-nous pour vous inviter à Mauvais genre. Alors on attendait, puis on a fini par trouver, avec ce nouveau démarrage, ce numéro 1 de la revue Aventure qui paraît chez Gallimard, et puis écrivez-vous des scènes de sexe. Vous imaginez bien qu'à Mauvais genre, on a été immédiatement interpellé par cette enquête et cette problématique, et donc voilà, maintenant on vous invite, bonjour, bonsoir. Et donc, vous êtes, comment dire, vous allez nous expliquer ce que signifie cette revue, d'abord, puisqu'une revue, c'est toujours une vision du monde, c'est toujours une ambition, un chantier ouvert. Et puis, pourquoi avoir choisi, en ouverture de débat, en ouverture de bataille, on peut le dire, cette écriture des scènes de sexe. Soyez le bienvenu.
Ben, grand merci. Channel. Grand merci.
Vous serez... Oui ?
Non, je vous en prie.
Vous serez livré pieds et poings liés aux questions de Céline Duchesnay.
Bonjour François.
Que je salue, quoi de neuf?
Quoi de neuf, je suis prête pour l'émission, comme toujours.
Voilà,
c'est ça mon actualité, d'être parmi vous.
Esther Teillard, bonjour.
Bonjour François.
On va évoquer avec vous donc effectivement aventure et puis esprit érotique de femme, domaine qu'avec le maître Beer. Bonjour maître Beer.
Bonjour maître François.
Alors j'imagine que ces deux riches publications vous ont laissé à penser, vous ont fait rêver, ont suscité vos méditations?
Ah ben oui, bien sûr, oui, il y avait longtemps qu'on avait consacré une émission à l'érotisme, me semble-t-il.
Oh ben quand même,
c'est
tout mis récemment.
Ça irrigue en permanence, ce qui d'ailleurs rejoint certains propos des écrivains qui considèrent que la scène de sexe peut être un piège et que le sexe, au contraire, doit irriguer toute l'œuvre. Ça, c'est une des remarques que j'ai retenues dans les 65 témoignages, oui.
65 témoignages, absolument. Ben, on va en parler. 29 femmes et 36 hommes qui ont répondu à l'appel de Yannick Hennel.
Thank you.
Voilà, on ouvre avec la musique de Weekend avec Marie. Stelvio Cipriani, grand musicien de genre italien, monsieur Bir.
Oui, Stelvio Cipriani.
Alors, notre invité, Yannick Hennel, effectivement, quand on regarde votre bibliographie, on constate qu'effectivement, la question de l'écriture du sexe est largement présente. Bataille, qui est votre auteur phare, un peu votre mentor, on peut le dire. Et puis, Caravage, publié un livre, et le tout récemment sur Bacon. Là aussi, la question de la viande, la question de la chair, la question du sexe est présente. Mais c'est pour cette revue Aventure au pluriel que vous êtes avec nous. Alors, vous êtes l'ami, on peut dire le disciple de Philippe Soler, ce qui a...
Disciple, c'est beaucoup
le
dire.
Le disciple, le mot était discutable, mais enfin, en tout cas l'ami. Soler, ce qui a été l'homme de deux revues, la première telle qu'elle, aux éditions du Seuil, et puis la deuxième, l'Infini, aux éditions Gallimard. Il est décédé récemment. Vous avez réaffirmé votre fidélité à son œuvre et à son souvenir. Et en créant l'aventure, c'est un peu une poursuite de ce qu'il avait engagé, que vous avez tenté de faire. Est-ce qu'il est toujours là?
Oui, oui, bien sûr, mais je pense que la littérature est sans origine. Enfin, il s'agit de la relancer sans cesse. Mmh. Et moi, je suis passionné par les revues en tant qu'elles fondent sans cesse, elles refondent sans arrogance. Mais toute l'histoire des avant-gardes est travaillée par des revues. Enfin, que ce soit telle quelle que vous avez citée de Solers ou évidemment les revues surréalistes ou dadaïstes ou
Minotaur,
même l'internet,
Verve,
voilà, mais je mets même là-dedans
révolution surréaliste,
oui, et puis je mets aussi dans cette liste l'international situationniste. Mmh. Parce que je pense que le rapport de Guy Debord au langage, à la littérature, était l'équivalent de la révolution. Et donc pour moi, fonder une revue, c'est encore plus important qu'écrire un livre, parce que publier un livre, même si je fais ça beaucoup, c'est quand même s'inscrire dans quelque chose qui relève de l'homologation, du marché. Alors que les revues, on fait ce qu'on veut. Là, j'ai eu la chance, on s'est publié par...
Carte blanche d'Antoine Gallimard.
Alors, c'est une chance inouïe, j'en ai largement profité, ça va continuer, j'espère. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller vers ce qui m'intéresse. Et au lieu de déblatérer moi-même sur ce qu'il en est du désir et du sexe, je le fais de manière narrative, j'ai pas d'idée là-dessus. J'ai demandé à des écrivaines et des écrivains que j'aimais. Et je pensais qu'une vingtaine répondrait, et puis bah voilà, c'est
les trois quarts
de la revue sont constitués par cette enquête. Voilà. Je pense que c'est une question fondamentale. Voilà, c'est l'écriture elle-même est sexuelle. Ouais.
Donc cette revue a quand même des ambitions importantes, puisque quand on lit la préface que vous avez rédigée, qui est une sorte de manifeste, j'ose pas dire de credo, les phrases sont extrêmement, je veux pas dire là aussi solennelles, mais où est-on encore en vie ? Créer une revue, c'est ouvrir une brèche dans les ténèbres. Il reste à faire de la liberté des abus divers et précieux. Ça, c'est pas de vous, c'est d'un...
Ça, c'est d'Aragon.
Poète anarchiste,
mais
vous
Aragon,
qualifiez d'anarchiste.
Aragon,
ouais, le premier Aragon.
Aragon,
ouais.
Était anarchiste avant de devenir un flic.
Les choses sont claires. Vous voulez que cette revue soit un trésor d'intensité heureuse, très belle formule. Et puis vous rapprochez du sujet qui est celui du numéro 1 en disant que tout véritable soulèvement est sexuel, là aussi. Oui. Fidélité à Bataille, à Soler, ce qui dit que c'est dans l'écriture de l'érotisme et du sexe que la vérité de la littérature se manifeste.
C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les mêmes coordonnées, on n'est plus à la même époque, ni de Bataille, ni même de Solers, enfin. Et je voulais redéployer cette question, parce que je pense que le puritanisme est là, tout le temps, sous des formes variées. Enfin, le puritanisme n'arrête pas de nous infecter le cerveau et de nous limiter, de nous censurer. Je trouve quand même que beaucoup d'artistes, d'écrivaines, d'écrivains, s'auto-censurent, qu'ils le sentent ou non. Et j'avais envie de faire le point. Moi, je considère que... Mais mon point de vue est peut-être pas très intéressant. C'était un panorama avec les
autres. Quand même un peu.
Bah, puisque vous m'invitez, je vais en parler. Mais je considère que... Comment dire? Que la morale... Comment dire? Que l'écriture est une chose singulière, qu'il n'y a pas d'universalité du désir, et que ce qu'on écrit peut transmettre quelque chose de désirable, mais les autres vont pas nécessairement s'y reconnaître. Et donc, au fond, la limite ne devrait pas intervenir dans le champ de l'art, voyez. Les limites relèvent d'une éthique personnelle. Enfin, moi, par exemple, ce qui me répugne, c'est la violence sexuelle. dans la vie et dans l'écriture. J'ai un peu de mal avec le Marquis de Sade, même si je trouve ça passionnant, enfin drôle aussi. Mais chacun fixe ses limites. Je me disais voilà que j'avais envie d'entendre pas mal d'écrivaines et d'écrivains là-dessus sur ce qu'ils se permettent à un moment où au fond on confond beaucoup la littérature avec une chose vertueuse. La littérature serait censée, enfin les livres et toute manifestation artistique serait censée nous faire du bien. Bah je vois pas pourquoi. Moi, les œuvres que j'aime,
on est bien d'accord.
Les œuvres que j'aime, je sais bien où je m'exprime. Enfin, j'imagine que vous êtes à peu près d'accord. Les œuvres puissantes ne font pas nécessairement du bien. C'est comme la vérité. La vérité, ça fait mal, quoi. Mais c'est la vérité, à savoir que c'est elle qui produit une métamorphose en nous, voilà.
Alors, les revues, c'est comme les émissions de radio. Le choix du titre est important. Vous, c'est aventure au pluriel avec comme exergue. Les phrases sont des aventures de Flaubert. C'est-à-dire qu'il y a donc la grande aventure, c'est celle de l'écriture. Et la phrase, ça peut être le vers, ça peut être le mot, ça peut être la métaphore, ça peut être le chapitre. Là, c'est la phrase.
Ouais. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, moi j'ai tendance à penser que le sexe, l'érotisme, peut-être on peut définir tous ces mots ou pas, on les laisse flotter, ça ne peut pas se limiter à une scène. Bien souvent, les scènes de sexe sont un peu vulgaires, au fond. Surtout celles des autres qu'on trouve vulgaires.
C'est la scène qui pose problème.
Et donc, les phrases, c'est une matière ardente, c'est une matière sensuelle. J'ai tendance à penser, comme vous, qu'effectivement, il n'y a peut-être même pas besoin... Nabokov, par exemple, qui est l'auteur pour moi le plus sexy, au fond. Avec Proust, il y a très peu de scènes explicitement sexuelles, mais on baigne sans cesse, lisez Le Don ou Ada ou L'Ardeur, on baigne sans cesse dans un océan de désir qui n'a même pas besoin de nous parler justement de la viande, de vous parler de l'anatomie. Mmh. Au fond, le sexe, c'est pas l'anatomie, c'est un soulèvement qui nous fait ne même plus avoir de corps.
Donc c'est placentaire, comme on dit, c'est plutôt amniotique plutôt que rhétorique, le sexe en littérature.
Si vous voulez,
Très bien, en tout cas, on peut signaler, alors on va parler de cette enquête, 65 autrices et auteurs qui répondent à « Écrivez-vous des scènes de sexe ?» et puis aussi à ce qui est paru dans ce numéro 1 de Pierre Michon, Rilke, Frédéric Berthet, puis des poésies nombreuses et variées, puisque vous défendez véritablement la poésie en accord quand même avec Philippe Solaire, ce qui disait que l'enfer, c'est quand on ne peut plus avoir accès à la poésie.
Absolument.
Les Cramps, What Inside a Girl, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une fille? Je ne vais pas vous demander la réponse, Yannick Hennel, mais simplement...
On pourrait faire un autre numéro là-dessus.
Une autre émission, mais simplement, les Cramps, c'est votre affaire. Vieux boomer que vous êtes.
C'est gentil de dire ça. Oui, j'ai adoré les Cramps, je les adore toujours.
Vous avez un rapport au rock'n'roll qui est intense?
En fait, c'est le punk rock qui m'a toujours passionné, c'est le mauvais genre comme vous.
Les Cramps, donc, futur sujet d'écriture de Yannick Hanel. Alors, repartons sur cette enquête. Écrivez-vous des scènes de sexe. 65 auteurs, 29 femmes, 36 hommes, avec des topographies éditoriales, majoritairement plutôt des gens du côté de chez Gallimard et de chez POL. Comment avez-vous pratiqué? Est-ce que vous avez envoyé une sorte de questionnaire, comme ça, dans l'atmosphère, en attendant que la chute des corps vous ramène des réponses, vous ramène des élans, des visions, des invectives, des polémiques, ou est-ce que vous avez pris 65 personnes sélectionnées parmi les meilleurs critères?
Alors, c'est très artisanal et j'ai comment dire, tout seul, j'ai écrit à des gens dont j'aimais les livres, voilà, c'est tout. Donc c'est très très subjectif et c'est assumé, parce que j'attendais vraiment de savoir ce qu'ils en pensaient. J'aurais pu boire café avec eux ou leur poser une question comme ça au téléphone.
Mais cette question, elle vous est... Ça fait longtemps que vous aviez envie de la poser à vos collègues, entre guillemets, ou est-ce que c'est... vous avez cherché ce qui pouvait fédérer un petit peu le questionnement?
Non, non, non. Comment dire, à l'origine de cette revue, il y a ça. À tel point que je ne sais pas trop quelle sera la deuxième question. Je ne sais pas s'il y en aura une pour le second numéro. Ce n'est pas sûr que je fasse une enquête. Mais je voulais faire carrément un numéro là-dessus, oui, sur le sexe et la littérature. Mmh. Mais non, non, ça s'est fait comme ça. J'ai envoyé une centaine, en fait, d'écrivains dont j'avais lu les derniers livres, d'écrivaines et d'écrivains. Et je priais pour qu'il y ait à peu près autant de femmes que d'hommes, parce que c'est un parti pris
oui,
que j'ai.
Le résultat est là, j'y ai arrivé.
C'est à peu près, voilà. Ça s'est fait comme ça. Hein. Une revue, c'est la vie de café, en fait. On parle à des amis, on a de nouveaux amis, on se voit, on discute, on enregistre. Il y a des textes que j'ai enregistrés aussi, comme ça, c'est des gens qui me parlaient. Il y a l'idée d'une communauté, enfin, d'une communauté politique qui ne soit pas politique. Mmh. Une communauté qui soit tout entière poétique. Je sais pas si une telle chose est possible. Moi, j'essaye d'atteindre ça dans l'amour, enfin. Le rapport que j'ai avec certains êtres aimerait être poétique, c'est-à-dire fondé sur un langage qui nous soulève, justement. Et la revue, c'est une approximation collective de ça. Pour continuer la métaphore du rock, je fais des albums solo en général. J'appelle ça des romans, des récits.
Et de temps en temps, vous avez fait un concert.
Et là, voilà, c'est un groupe. Enfin, j'ai un groupe avec moi.
Qui a tenté justement de répondre et d'orchestrer votre mélodie. Alors on va faire le tour de la table Mauvais Jean. Première réaction de nos présents aujourd'hui, Céline. Écrivez-vous des scènes de sexe?
Non.
Non.
J'allais répondre, il suffit de les vivre, mais c'est pas tout à fait la même chose. Non, non, j'ai beaucoup aimé le côté kaléidoscopique, finalement, de cette enquête, de prendre un témoignage, d'en lire un deuxième, un troisième, et petit à petit, il y a quelque chose, une sorte de paysage qui se dessine avec des auteurs ou des autrices auxquels je n'aurais pas pensé. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait aussi de savoir comment est-ce que vous aviez pu, par exemple, choisir. Je pense par exemple à Marie-Hélène Lafont que j'aime beaucoup et qui botte en touche.
Oui,
et
j'ai trouvé que ça... largement même.
Oui, mais j'ai trouvé que c'était aussi intéressant finalement, que c'était aussi intéressant d'avoir des auteurs ou des autrices qui n'avaient pas envie de répondre parce que ça ne les intéressait pas et qui ne se sentaient peut-être même pas spécialement concernés par la chose que des êtres qui, eux, sont beaucoup plus dans ce style d'écriture. Alors, j'ai trouvé que très vite, ce qui pouvait poser problème, c'était ces termes finalement de scène et de sexe. Peut-être que si vous aviez dit désir, les choses auraient peut-être été un petit peu plus faciles pour certaines ou pour certains.
Oh, mais je voulais pas leur faciliter la tâche.
J'imagine bien que c'était fait exprès d'utiliser ce mot sexe avec lequel on ne sait pas toujours finalement quoi faire dans la littérature. Et ce qui m'a aussi interrogée, c'est de me dire que dans ce petit panel que vous présentiez, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient par exemple de la littérature de genre. Alors il y a Nicolas Mathieu qui en parle à un moment et j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il disait. En disant que dans finalement la littérature de genre, on attendait, enfin on savait que la scène de sexe allait arriver et qu'il y avait quelque chose de presque du page-turner où on attendait. Et j'ai trouvé que sa réponse aussi était ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit, c'était de tenir compte aussi du désir féminin. Et j'ai trouvé que dans cette enquête, il y avait quelque chose autour de la place des femmes qui était drôlement intéressant et de comment transcrire aussi un désir. On va le voir avec la somme dont on va parler dans un deuxième temps. Comment faire avec le désir féminin qui n'a quand même pas toujours été très très présent dans la littérature ou alors toujours vu par le prisme des auteurs hommes. Donc les réponses des uns et des autres, je trouve, par rapport à ça, m'ont fait réfléchir. M'ont apporté.
Yannick Hennel, alors, réaction à la réaction.
ça me plaît bien ce que vous dites, parce qu'effectivement, je trouve que les meilleurs textes, si je puis me permettre, après tout, c'est comme c'est moi qui suis à l'initiative de cette revue, je me permets.
Permettez-vous.
Les meilleurs textes sont écrits par des femmes, que ce soit Emma Baker, Geoffrine Donadieu,
Célia Oudard aussi.
Célia Oudard, absolument. Violaine Huysmans.
Maria
Porcher, je trouve, sont les plus audacieux, les plus radicaux, parce que je pense qu'elles sont libérées de la posture. Je pense que chez les hommes, il y en a quelques-uns, j'aime tous ces textes-là, mais il y en a quelques-uns qui sont dans la posture de qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde pour être un écrivain.
Avec cette idée aussi que quand on écrit une scène de sexe, j'ai l'impression qu'on écrit, c'est comme si on se dévoilait, comme si on avait peur de se dévoiler et d'avoir en effet le regard du lecteur ou de la lectrice sur vous, quoi.
C'était ça la vraie question. Oui. Est-ce qu'il y a bien un lieu sur Terre? Et moi, ce lieu sur Terre, c'est dans l'écriture que je le cherche. Est-ce qu'il y a bien un lieu sur Terre où enfin on est débarrassé de la société, c'est-à-dire du regard qu'elle porte sur nous, du regard qu'on a intériorisé, c'est-à-dire les interdits, et puis l'estime de soi aussi, l'image qu'on veut donner. Et donc, les scènes, je persiste à utiliser le mot sexe parce qu'il va pas de soi, parce qu'il nous rentre dedans un peu comme c'est quelque chose de malséant. Le désir, c'est si beau, on est tous d'accord au fond. Non, peut-être pas.
Forcément.
Ah bah tous les désirs, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'universalité du désir, mais c'est rare que quelqu'un soit contre le désir, à part Michel Houellebecq. Mais alors que le sexe, ça. Je trouve que il y a quelque chose justement de mauvais genre comme vous le dites si bien ici donc je tenais à cette formulation et aussi au fait que peut-être ce soit l'un des rares lieux où la dénudation, enfin le dévoilement de soi, soit dangereux, quoi, parce que d'un coup on peut lâcher quelque chose d'extraordinairement mauvais, laid, vulgaire sur soi-même. Enfin, on se rend pas bien compte de ce qu'on dénonce dans ces cas-là. Et effectivement, beaucoup d'écrivaines et d'écrivains sont très sévères sur leur propre scène de sexe.
Ah bah, la phrase de Christine Angot, la scène sexuelle ne pardonne pas.
Voilà, elle a raison. Hein.
Esther Taillard.
Bah écoutez, moi je trouve que c'est une revue absolument passionnante. Il y a forcément des écrivains et des écrivaines qui me parlent plus que d'autres. J'ai beaucoup aimé Emma Baker, qui dit « Je tiens à la citer, je crois que j'ai toujours préféré bander ». Elle parle de l'injonction à bander éthique, à mouiller morale. Ça me donnerait presque envie d'écrire chaste. Je trouve ça très fort. Il y a plusieurs partis pris. Il y a les partisans de l'écriture de la scène de sexe très épurée, complètement dénué d'artifice, comme Christine Angot, qui parle de violence sexuelle, d'inceste, donc forcément qui va directement. Et puis, j'ai bien aimé, moi, la phrase de Leïla Slimani qui parle d'une écriture du sexe apolitique, amorale, un espèce de brouillage des genres et des identités, qui parle d'une sorte de sexe, d'une sorte de scène sexuelle maquillée, travestie, je trouve ça intéressant. J'aime bien le fait que vous ayez cité Nabokov, parce que je trouve que s'il y a bien quelqu'un qui était fort dans cette illusion de la scène pornographique qui n'en est pas du tout une, c'est bien Nabokov, qui avait toute une théorie d'ailleurs sur la différence entre le pornographe, l'écrivain pornographe et l'écrivain esthète, où il disait que le pornographe, c'est une sorte de... comme un conte de fées, c'est quelqu'un qui va suivre une structure très précise avec une intrigue, un avortement, une fin. Et il disait que le pornographe faisait ça, alors que l'esthète, l'écrivain esthète, lui, va jouer à l'illusion de la scène sexuelle, qui n'en est pas du tout une, comme une sorte de jeu d'échecs, un petit peu. Et va jouer ça. Je trouve que toutes les raisons sont... Enfin, toutes les opinions sont très intéressantes. Après, c'est des parties prises. Moi, je pense que l'écriture érotique, maintenant... c'est vrai que c'est une question qu'on doit poser, étant donné les contextes actuels. Mais je pense qu'il faut toujours qu'elle s'ose à être dangereuse, à se méfier complètement de la morale, de la psychanalyse, à aller dans le sale, dans le crade, dans le dangereux. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et que seule la langue... il me semble que c'est d'ailleurs Catherine Millet qui dit ça, qui parle du fait que seule la littérature arrive à faire ça, alors que le cinéma ou la photographie, justement, arrivent à certaines limites à ce sujet-là. Elle dit que seule l'effervescence de la langue, la jubilation de la langue permet d'aller n'importe où, de se faufiler dans tous les recoins. Et je suis assez d'accord avec elle.
Yannick Hennel ?
Ah, mais ça me comble. Enfin, je me dis que la littérature, dans sa solitude, enfin, dans le fait qu'elle est devenue finalement un langage minoritaire, au fond...
Parler de la solitude de la littérature qui est notre chance.
Oui, je trouve qu'effectivement, maintenant que c'est devenu un langage qui n'est plus le langage dominant comme du temps, je dirais, de Sartre, par exemple, il y a quelque chose qui relève d'une liberté sulfureuse, voilà, qui peut être, qui à mon avis, c'est pas seulement qu'il faut défendre la littérature, elle se défend toute seule, on s'en fout, mais c'est le fait qu'on peut profiter d'avoir enfin avec son langage, avec son propre langage, un rapport de soulèvement intime. Voilà, je pense que toute littérature est sexuelle, érotique, je sais pas comment dire, les mots sont... Et j'aimais bien, par exemple, il y a une autre jeune femme que j'ai oublié de citer, dont j'aime beaucoup les livres, je la connais à peine, qui s'appelle Alexandra Dedzi. J'avais lu un livre d'elle, c'est pour ça que je lui ai écrit, et à la fin elle dit, par exemple... J'en ai marre de toutes ces scènes dans les films ou dans les livres où les femmes gémissent. Pourquoi est-ce que les hommes ne gémissent pas ?
Ah,
alors voilà,
c'est vrai.
La littérature, pour moi, c'est un lieu où enfin je peux gémir.
Alexandra Dedzi qui écrit également « J'écris des scènes de sexe comme on met les mains dans le cambouis et la boue ». Christophe Beer, écrivez-vous des scènes de sexe ? Vous, je sais que oui.
Oui.
Vous pouvez pas vous cacher.
Mais oui, oui, bien sûr.
Alors
oui,
j'imagine que la lecture de cette enquête a dû. Alors j'ai échangé un mail à ce propos qui doit faire 10 pages.
Un mail.
J'imagine que beaucoup de choses vous ont interpellé.
Oui. Comme on dit. Déjà. À la lecture des 65 témoignages, j'en ressors rassuré. Parce que vous souligniez tout à l'heure une sorte de danger moral, enfin oui. de censure, voire d'autocensure. Alors, il y en a des traces quand même. Il y a certains témoignages qui l'avouent. Il y a d'ailleurs, et c'est là effectivement une différence entre les romancières et les romanciers. On dirait que l'autocensure est un peu plus l'apanage des hommes.
Absolument.
Aujourd'hui. C'est même...
J'ai
noté... Qui écrivait ça ? Je ne sais pas, toutes mes notes sont là en chiffon.
Il y a tellement de
notes. C'est un garçon qui préfère, donc, à cause de cette morale MeToo et du genre et tout ça, il va conformer ses personnages masculins à une certaine éthique morale, mais qui n'est pas la sienne, qui est une éthique à laquelle il va se plier. Bon, mais c'est un témoignage, disons, minoritaire. Heureusement, je pense que 90% des personnes interrogées affirment la violence de la littérature, sa liberté absolue, ce territoire de l'imaginaire dans lequel la morale n'a pas à avoir sa place et certaines, donc effectivement, là, plutôt beaucoup de femmes... affirme même carrément qu'elles se foutent de l'éthique. C'est un terme même qui fait peur à l'une d'entre elles, même à plusieurs. Mais l'une le dit explicitement. C'est vrai que celles et ceux qui m'ont le plus marqué, c'est Emma Becker, Caroline Boide, Victor Dumiot aussi, Camille Laurence, Félix Macherez. Alors, je l'ai bien prononcé.
Ah bon. Oui, c'est Macherez ou Macherez.
Bon, d'accord.
Et on va en parler
et alors, Macherez, bon. Là. Donc ça m'a rassuré. Il y a aussi des tas de questions passionnantes sur le style. Et c'est là que l'éthique parfois revient. C'est-à-dire que, à défaut d'une éthique morale qui est conspuée, oui. Il y aurait une éthique de l'écriture, une éthique de la syntaxe. Et alors le bémol, la chose qui m'a chiffonné un peu. Tout petit peu, c'est les références sont un peu convenues, très classique.
Oui, alors sauf... c'est Bataille, ça, oui, alors, Miller. Bataille, il y a Calaferte qui brusquement revient.
Mais Calaferte trois fois.
Oublié universellement, Calaferte et Septentrion revient.
Bataille 8 fois, mais c'est certainement un juste titre d'ailleurs.
Ah oui, bien sûr.
Annie Lebrun que 2 fois, ça, ça me chagrine. Mais ce qui me chagrinait davantage encore, c'est cette différence entre érotisme et pornographie qui a été soulevée. Avec, bon, Esther qui disait que le pornographe était dans le registre du conte de fées. C'était donc une façon un petit peu négative de parler de la pornographie.
C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Vladimir Nabokov.
C'est Nabokov.
J'aurais pas la prétention.
Bon, d'accord. Alors, oui, mais vous le répétez.
Mais je suis d'accord avec lui.
Voilà, c'est ce que je pense. Oui. Et donc, il y a heureusement quelqu'un qui sauve la face de la littérature pornographique ou de la littérature de genre, puisque je rejoins aussi ma consœur Céline qui reconnaissait aussi un peu dubitative l'absence de littérature de genre.
C'est ce qui m'a manqué, hein, moi. Oui, dans l'enquête.
Bah oui, mais c'était ce qui fait l'intérêt de l'enquête, Gérard c'est de Villiers, tout sauf littérature
oui,
de genre.
Gérard de Villiers est cité 3 fois dans le livre.
Oui,
oui, je suis un homme de chiffres.
Absolument.
Et même 4 fois, puisqu'il est cité Frédéric Berthet. 4 fois.
Au début d'un texte sur Kafka.
Il faudra citer Gérard de Villiers dans le numéro 2. et alors, non, ce que j'ai trouvé formidable, c'est John Jefferson Selve. Qui redonne ses lettres de noblesse à une littérature de gare, en l'occurrence Police des mœurs. Et il écrit ceci, parce que je vais le citer, parce que je trouve que ça n'est pas anecdotique. John Jefferson Selve, je le sais depuis la série des livres Police des mœurs. Vous savez, c'était ces livres édités par Vauvenargues, avec découverte. Il en parle. J'ai 10 ans et je trouve un exemplaire. La couverture est parfaite. Une brune foudre, des lèvres roses rouges, des résilles jambes sur fond bleu électrique. L'agencement dégénéré des diapures sur la couverture est une promesse. Ces couleurs de l'enfance sont substantielles à cette enquête. Ce sont elles, sur cette couverture de livre, qui me conduisent vers des phrases pornographiques, lues jusqu'à lit. Ces mots, ces paroles couchées m'entraînent vers un monde incompréhensible, mais que la part divine et perverse de l'enfant devine avec clarté. Puis les phrases lues font des images bouleversantes, impossibles. Je me souviens dans ce premier livre de Police des mœurs, l'héroïne débridée mouillait en permanence, tout glissait. Jutée même, disait-elle, quelle tourmente que cette épithète que je savais, entre guillemets, sale, et pas loin du divin. Et donc là, c'est une défense magnifique.
Lecture de Christophe.
Je trouve que lui, il se démarque de ses collègues et consoeurs par tout d'un coup un aveu, parce qu'on a tous lu à toutes et tous à 13 ou 14 ans des romans de gare, et on a aussi lu le Marquis de Sade qui nous tombait des mains. Bon, et
parlez pour vous.
Mais si, je pense. Et c'est très bien là qu'il fasse cet aveu que cette littérature populaire de gare, peut-être écrite à la va-vite, a provoqué en lui des émotions, un soulèvement. On parle de soulèvement depuis le début de l'émission. Et donc sur la question du style, beaucoup des personnes interrogées parlent du danger du ressassement, de l'usure des mots. Et c'est peut-être un problème qui est évacué par cette littérature de gare qui peut-être pourrait donner matière à des réflexions intéressantes sur la manière d'écrire le sexe.
Yannick Hennel.
Bah écoutez, c'est très
vous
stimulant.
Vous répondez point par point.
Point par point, très bien. J'ai pas pris de notes, mais je vais tâcher de le faire. C'est très stimulant ce que vous dites. Effectivement, pour moi, la littérature de genre, je suis pas très certain d'en connaître les limites. Enfin, pour moi, c'est tout. Enfin, Proust, c'est aussi de la littérature crapuleuse. Enfin, il y a quelque chose de la série noire chez Henri Thomas, chez Bataille. Enfin, je mélange un peu tout.
Oui, Bataille. Oui.
Et oui, Histoire de l'œil, c'est Les pieds nickelés et la série noire qui sont transformés en romans gothiques d'obsédés sexuels. Voilà. Mais le texte de Jefferson Selve m'avait touché aussi parce qu'il parle d'une chose très précise qui est l'enfance du désir.
C'est le seul, je crois. C'est quasiment le seul à en parler.
Absolument. Et je pense qu'il a raison. C'est pas seulement parce que c'est là qu'il y a un point de fixation.
c'est parce que l'amour fou qu'on peut avoir pour les formes de la dénudation, pour des corps, enfin, qui passent. L'amour fou dont l'obsession sexuelle peut être, après tout, une forme, enfin, cette couverture-là d'un mauvais roman, que j'ai peut-être lu moi aussi, d'ailleurs, parce que je pratiquais ça, ben, c'est fondateur. C'est absolument fondateur dans la dans les variations de l'écriture. L'écriture, pour moi, c'est une chose très... Alors, c'est vrai que les écrivains et écrivaines à qui j'ai écrit pour ça sont des gens qui comment dire, qu'ont l'air sérieux, disons. Mais pour moi, l'écriture, c'est une chose impure, fondamentalement impure et hétérogène, hétérodoxe, et qui ne cherche absolument pas la respectabilité. Je crois que s'il y a un lieu où quelque chose peut se dire et s'énoncer en se fichant pas mal de ce que les autres pensent, voilà. C'est bien la littérature. Alors, il y a des belles couvertures classiques, Gallimard,
Édition de minuit,
Édition de minuit, ce qu'on veut. Mais en fait, je m'en balance, en fait. C'est l'effervescence, encore une fois, désirable. Voilà, la transmission de ce qui est désirable. Et ça remonte à l'enfance, absolument.
Alors,
je pense comme vous.
Yannick Hanel, chacun a choisi son porte-parole au sein des 65 écrivains et écrivaines qui se sont exprimés dans cette enquête d'aventure, là, votre revue chez Gallimard. Alors moi, j'ai choisi Félix Macheret ou Macherès. Alors avec cette phrase...
Beaucoup aussi.
Alors voilà deux points. Je suis pour le cul et le Christ, Ernest Hello plus Sex Appeal, mon idéal littéraire. Alors, j'ai vraiment l'impression que d'être le porte-plume de Félix Macheret, c'est exactement mon point de vue sur la question. Et c'est quand même extraordinaire, c'est la seule fois, à ma connaissance, que le cul et le Christ fusionnent dans cette enquête.
François, il dit une autre phrase formidable. Allons-y. Je n'ai rien à faire des lecteurs thermomètres qui redoutent la fièvre. Ça, c'est bien.
Qui est donc ce Félix Macheret?
C'est un très bon écrivain qui a fait paraître un... qui est donc ce Félix
Macheret. Il se prend pour François Angelier.
Il faut absolument lui faire savoir ça. Il vient de publier, enfin, l'année dernière, son premier roman.
Il s'appelle Les Trois Pylônes.
Les Trois Pylônes chez Gallimard.
Gallimard dans la collection L'Arpenteur. Mais c'est là, en plus, il cite Ernest Hello, qui est quand même, alors, je veux dire, qui est un ami de Léon Blois, de Villiers-l'Isle-Adam, une espèce d'auteur un peu, que Michaud adorait, une espèce d'auteur catholique, apocalyptique, totalement halluciné, très, très grêle dans l'écriture, très mince. Enfin, c'est vraiment l'être le plus décorporé, le moins érotique et le plus décharné qui soit dans cette littérature catholique. Où quand même la chair ne manque pas. Et il cite là justement Ernest Hello et le sex appeal. C'est quand même grandiose.
Oui, parce que je pense comme vous qu'entre mystique et érotisme, il n'y a pas de séparation.
Eh ben voilà, bien.
Demandez aux saintes.
Et pas d'erreur, c'est mauvais genre, Céline Duchesne.
Eh bien, il y a quand même un absent dans cette grande enquête, c'est vous, parce qu'on aurait bien aimé vous poser la question directement. Alors j'ai en tête, bien sûr, le trésorier payeur. Votre dernier roman que vous avez publié en 2022. Alors, je ne l'ai pas relu hier parce qu'il y avait tant à lire, mais je garde quand même des souvenirs de scènes de vertige sexuel, amoureux, très fort, avec votre personnage principal qui, tout de même, s'appelle Bataille, ce qui n'est tout de même pas un hasard. Et je relisais, par contre, un petit livre que vous avez écrit qui s'appelle « Le désir comme aventure » qui est lié à un tableau devant lequel vous avez une sorte de chavirement qui s'appelle « La mort de Sardanapale » de Delacroix. Et vraiment, vous insistez sur finalement le lien entre la pulsion sexuelle et la pulsion de mort. Et je me demandais si un début de réponse par rapport justement à quelles seraient vos scènes de sexe à vous ou la manière dont vous les écrivez, c'est cette tension entre les deux. Alors on va dire de manière un peu classique entre Thanatos et Eros. Mais est-ce que dans votre manière d'écrire, dans cette espèce de vertige qui peut prendre vos personnages lorsqu'ils font l'amour, il n'y aurait pas quelque chose de cet ordre-là, sans évoquer la petite mort qui me paraît un petit peu banale par rapport aux enjeux que vivent vos personnages quand ils font l'amour?
C'est une vaste question, oui.
Certes.
Ce n'était pas par pudibonderie que je n'ai pas voulu répondre, c'était parce que je voulais me mettre derrière un peu...
je voulais me réserver derrière les réponses des autres. Mais je, c'est ce qui me travaille quasiment le plus quand j'écris un roman. Les scènes, justement, où l'intensité va devenir maximale entre deux personnes. Et dans Le Trésorier payeur, effectivement, dans ce roman où le type est un peu, le narrateur est un peu corseté, c'est un banquier, bon, un banquier anarchiste, un banquier un peu bizarre, mais
très anarchiste.
Très anarchiste, c'est vrai. Mais quand même, on l'attend pas là, enfin, dans l'orgie, si je puis dire. Et je suis travaillé par ça, par l'idée d'aller le plus loin possible, effectivement. Et le problème, c'est quand on essaye d'aller le plus loin possible, on va trop loin. Et aller trop loin dans le langage, c'est comme dans la musique, il y a de la dissonance, de la fausse note. Et c'est quelque chose à quoi je n'ai pas renoncé. Enfin, j'essaye d'explorer ça. Alors, il y a beaucoup de scènes de sexe, du coup. On m'en a fait reproche certains critiques, des critiques de gauche d'ailleurs. M'en ont fait reproche.
Bon, il y a des critiques de gauche.
Voilà une jolie remarque. Et voilà, tout s'explique finalement. Et c'est un peu pour ça aussi d'ailleurs que je me posais cette question, que j'ai voulu la poser aux autres. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'en 2022, 2023, 2024, on commence à dire aux romanciers, ben non, là c'est pas bien, vous allez trop loin dans les scènes de sexe. Voilà, je posais cette question.
François Angélier, qui reçoit aujourd'hui avec toute l'équipe de Mauvais Genre Yannick Enel pour le numéro 1 de sa revue Aventure au pluriel chez Gallimard. Autre publication considérable, cette fois aux éditions Bouquin la collection, signée par Romain Henriquez et Camille Coscas, écrit érotique de femme, une nouvelle histoire du désir de Marie de France à Virginie Despentes. C'est un livre tout à fait considérable qui fait le point sur plus de 1000 ans d'écriture érotique francophone signée par des femmes depuis, disons, le haut Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, avec toute une analyse à la fois des problématiques historiques, idéologiques, littéraire, des bibliographies. Le choix est excellent. On découvre des auteurs, même que ma foi, on ne connaissait absolument pas. Certains auteurs qu'on croyait connaître sont un petit peu décentrés. En tout cas, c'est un livre important qu'il faut connaître et qu'il faut lire quand on est adepte de ces genres dits mauvais. Esther Teilhard.
Écoutez, François, c'est une bible, c'est massif. Il y a énormément de choses à dire. Moi, je suis particulièrement séduite par le passage sur les scènes de l'amour lesbien et l'inversion des genres, parce qu'il y a toutes mes déesses qui sont mentionnées.
C'est-à-dire
C'est le moment 1900, donc on a Nathalie Barnet, Anna de Noailles,
René Vivien,
elles sont là. Et puis il y a Mireille Havé, bien sûr, que j'affectionne tout particulièrement, qui est pas très connue, qui commence à être un petit peu connue, mais c'est la grande tourmentée du désir. Et donc des extraits de son journal qui sont absolument magnifiques, vraiment magnifiques. Et ce qui est génial, c'est que, enfin, la grande nouveauté dans ces textes, c'est des extraits parfois et des opinions très invisibilisées, mais Mireille Havé, moi, ce qui me touche particulièrement dans sa littérature et notamment dans ces extraits de son journal qui date de 1919, c'est que je pense qu'elle écrit parce qu'elle aime les femmes et que le contraire n'existerait pas, c'est-à-dire que si elle aimait les hommes, je ne sais pas si elle écrirait avec autant de grâce et autant de beauté. Et elle nous parle de cette espèce d'état de mal-être constant dans laquelle elle est, où elle regarde les femmes dans la rue et absolument toutes évoque en elle un désir insoutenable, insatiable. Elle en meurt, c'est une sorte de Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes. Enfin, elle est complètement prise au corps par toutes ces femmes. Et c'est assez fascinant, c'est la sensualité, le désir sexuel complètement ôté de l'amour aussi, parce qu'elle, y a un passage dans son journal de 1919 où elle parle, en une seule page, elle parle de Vera, de Marie à qui elle refuse ses doigts dans son sexe, puis de Laure, elle parle de plein de femmes, elle dit « En suis-je à ce point que j'ai besoin d'embrasser toutes les femmes ?» Elle devient complètement folle et sa tourmente est celle... C'est de la tourmente sexuellement brute, si je puis dire. Et ça me, enfin, je trouve ça magnifique. C'est une anthologie qui est extrêmement complète. Il y a plein de choses à en dire, mais en tout cas, ce passage-là est magnifique. Et je tiens aussi à parler de Rachilde, dont nous parlions il y a deux semaines, parce que ça rejoint un petit peu cette inversion des genres, parce que Mireille Havé, elle, même si c'est la lesbienne, comme on l'imagine, elle parle un peu d'elle. Enfin, elle parle comme si elle était un homme qui regardait des femmes. Et Rachilde, elle inverse complètement les genres. Elle mêle, enfin, elle détruit complètement tous ces rapports de genre. Et c'est très beau. Et donc, il y a des passages de la Marquise de Sade qui sont magnifiques, de Monsieur Vénus notamment. Plein de choses à voir.
À trop voir. Donc, effectivement, il y a énormément de choses sur toute cette période, fin 19e, début 20e, et notamment sur les grandes Amazones de la littérature française. Céline Duchesnay.
Oui, grand plaisir de retrouver une anthologie. Alors, on avait parlé il y a quelques années de ça, de deux autres anthologies. Il y avait celle de Julie Bracher, Écrire le désir, 2000 ans de littérature érotique, où là, il y avait déjà eu... C'était accompagné de photos, donc... Il y avait quelque chose qui était assez joyeux et jouissif de lire cette anthologie. Il y avait aussi Je serai le feu de Digli avec ce recueil de poétesses qui parlaient du feu qui était en elle. Donc, grand plaisir de retrouver ces écrits érotiques de femmes sous-titrés Une nouvelle histoire du désir. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que même si tout est classé par thématique, il y a l'éros lesbien, l'apprentissage amoureux, l'éros ludique, on a l'évolution de l'écriture du désir dans sa description, dans le plaisir aussi, et évidemment une histoire de la littérature érotique féminine, c'est aussi une histoire des femmes, parce que écrire sur son désir à la Renaissance, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ou aujourd'hui n'est évidemment pas du tout la même chose en fonction du contexte social dans lequel ces femmes étaient, et en fonction aussi du regard qui était porté sur le corps des femmes. Donc il y a quelque chose, je trouve, d'assez beau de voir cette évolution et de, malgré la censure, malgré le fait qu'on puisse utiliser des pseudos, de voir ce désir apparaître au fil des textes. Et après, moi, j'ai été très, très heureuse aussi de retrouver des autrices que j'aime beaucoup. Il y a Marie-Laure Dagoua, qui est chère à notre cœur, qui est là et que j'ai eu grand plaisir à retrouver. Et aussi Nathalie Gassel avec L'Eros androgyne. C'est cette femme qui véhicule les femmes fortes, puissantes, bodybuildées et qui vont à l'amour comme les catcheurs vont au combat.
Oh, viragophile qui nous entendait, ce moment est à vous. Christophe Beer, oui, mot de conclusion.
Un mot, non, bah, 30 secondes. Alors, 30 secondes, mon Dieu, mais alors, peut-être pour contrebalancer ses louanges.
Ah, ça y est.
Oui, il manque une fois de plus la littérature pornographique qui n'est pas l'apanage des hommes. Nicole Védresse avait écrit Carnet d'une invertie, Léon Guerre... avait écrit les 10 japonais, il y a Marika Moreski, au lieu de ça on a la même Fatih qui a fait les mémoires d'une fouetteuse, mais Marika
Moreski... Oui, qui vient de paraître là.
Mais, oui, mais pourquoi Marika Moreski, c'est la grande prêtresse SM de la littérature de ces 40 dernières années. Bon, heureusement il y a Xavier Gauthier qui avait fait Histoire dit en réponse à Histoire d'eau. Histoire d'eau, au passage, on sent que les anthologistes... on les appelle comme ça.
Oui.
On sent qu'ils sont un peu gênés aux entournures par ce roman dont ils louent l'importance historique. Mais le fait que ce soit le fantasme d'une femme soumise aux hommes, c'est quelque chose qui revient comme une rengaine dans cette anthologie, comme pour dire, bon, c'est un roman important, mais est-ce qu'on a le droit d'écrire ça, surtout quand on est une femme ? Voilà. Ça pose encore la question de la liberté et de la littérature et le terrain de toutes les libertés. Y compris celle de se soumettre.
Absolument, et comme on le dit dans la revue de Yannick Enel, il faut faire excès de liberté, comme dit Aragon. Votre phrase d'Aragon.
Il reste à faire de la liberté des abus divers.
Voilà, faisons abus de liberté. Écrit érotique de femme, c'est aux éditions Bouquin. Céline Duchesnay, l'almanach de l'étrange.
Il y avait ce soir-là, dans la très chic et sage rue de Seine à Paris, une atmosphère particulière, un mélange d'excitation, de joie et d'étrangeté. Tout semblait venir de la galerie Nathalie Seroussi, où devant la vitrine se tenait une foule compacte, comme hypnotisée par un spectacle. Le spectacle, à dire vrai, se tenait autant à l'intérieur de la galerie qu'à l'extérieur, car ce qui frappait l'œil des promeneurs, c'était tout ce qui dépassait de la foule, tout ce qui débordait, flamboyait, des coiffes immenses, des couleurs en profusion, des maquillages, des formes hors normes. Il y avait par exemple Oscar Hernandez, alias Denebola Murnau, venu tout droit de Madrid, larmes de perles au coin des yeux, fraises autour du cou, robe à volant rouge, discutant avec Kae Britton, alias de mannequin, chapeau pointu de clown sur sa tête rasée, collerette et combinaison de léopard rose agrémentée de pompons bleus. À quelques mètres se tient Balatro, Pierrot songeur et élégant, costume blanc, escarpin rouge, et qui, soudain, se met à danser et à chanter.
Au milieu d'une rose et d'un corps, c'est là que se déroule notre échange.
Échange de corps, de corazón.
À l'intérieur de la galerie, les yeux sont rivés sur la maison Delà, duo composé de Delà Saboté, qui enchaîne les figures acrobatiques dans les airs, et de Delà Becher, arborant un costume soyeux de croissant de lune. Toutes et tous sont réunis ce soir-là, car c'est le vernissage de l'exposition Drag Clown Affairs. Une exposition que son commissaire, Rémi Barre, jeune chercheur en histoire de l'art, consacre au drag clown, un phénomène mondial, sur lequel il s'est penché et qui fait actuellement l'objet de sa thèse. Alors le drag clown, comme son nom l'indique, est une fusion des mots drag et clown, soit l'appropriation de la figure du clown dans la culture drag. Le clown apporte au drag la dérision comme tactique politique, les drags apportent au clown leur art de la transformation de soi et du monde, selon les mots d'Apolline Bazin, autrice du livre « Drag, un art queer qui agite le monde ». Alors être drag clown, c'est donc la rencontre de ces deux mondes, c'est vivre une ambivalence, être à la fois très visible par son maquillage et son costume, et être caché, qui pourrait reconnaître le visage d'un clown une fois démaquillé. Le costume est à la fois une parure et une armure, car, explique l'artiste Jean-Luc Vernat qui dessine de nombreux clowns, trouver le clown en soi permet d'être moins sensible aux attaques. Nul ne peut anéantir le clown roi de l'autodérision. Le drag clown joue avec l'image du fric, du monstre, du fou, du roi, de l'excès. Il ne souhaite pas être assigné à un genre, à une forme de sexualité, il est du côté du fluide, du mouvant, de l'imprévisible. Et c'est une façon subversive d'être au monde, tout en étant connecté à son soi le plus intime et profond. C'est en tout cas ce que montre l'exposition Drag Clown Affairs, à voir en ce moment à la galerie Nathalie Seroussi, donc 34 rue de Seine à Paris. Elle réunit les œuvres de 13 drag clowns, artistes ou autodidactes venus des quatre coins du monde, soit une trentaine d'œuvres, vidéos, costumes, masques, céramiques, vitrailles, photos, dessins, toutes produites spécialement pour l'exposition et qui dialoguent avec des œuvres issues de la collection de Nathalie Seroussi, à découvrir jusqu'au 15 juillet 2024.
Merci Céline pour cette chronique sur l'exposition Drag Clown Affairs à la galerie Nathalie Seroussi, c'est 34 rue de Seine à Paris. Esther Théillard, on retrouve les problématiques d'aventure.
Oui François, aujourd'hui je vais vous parler de « J'ai pêché, pêché dans le plaisir » d'Abnous Chalmani, qui est un roman qui vient entrelacer les vies de deux écrivaines tumultueuses, la poétesse contemporaine iranienne Foro Farrokhzad et Marie de Régnier, figure emblématique de la Belle Époque, celle que Pierre-Louis, son grand amour, appelait « la mouche ». L'histoire commence à Téhéran en 1955. Foro Farrokhzad, connue pour sa poésie sensuelle attaquée par le radicalisme ambiant, présente ses poèmes sur scène et rencontre Cyrus, un jeune homme féru de poésie française. Foro est charmé par cet étudiant cultivé et gracieux, déjà si épris d'elle. Après la lecture, il vient la voir, le murmure des vers de Pierre-Louis, leur liaison commence. Ils mêlent leur corps dans une villa décrépite du nord de Téhéran. Après chaque acte sexuel, un rituel, une tradition. Cyrus lit à Foro le splendide Per Viligium Mortis de Pierre-Louis. Il lui raconte l'histoire de Marie de Régnier, sa muse, femme de lettres aux amours incandescents, Jean de Tinan, Gabriel d'Annunzio, Henri Bernstein, pour n'en citer que quelques-uns. Foro se confond tout de suite dans le personnage de Marie de Régnier, ses abolitions et ses déchirements. La similitude de leur destin est troublante, Farrokhzade joue au double, à la grande confusion. Le souffle de l'intrigue se fond dans cet embrasement. Mais si elle s'identifie ardemment au personnage de Marie de Régnier, celle-ci commence doucement à la gêner, voire à l'écraser. La cruauté s'installe et le roman commence. Marie de Régnier est une écrivaine qui incarne la figure de la femme française libérée de l'avant-guerre contre une Farrokhzade restreinte. Sa réalité étant tout autre, Chalmagne l'écrit, la solitude des femmes orientales est un désastre civilisationnel. Elle est l'artiste dont l'existence créatrice est une lutte, sans cesse humiliée pour la liberté de ses vers, méprisée pour sa sexualité assumée. Elle est la femme errante contre une de Régnier qui se trouve et s'impose. Que faire si notre double s'émancipe, vit plus librement, plus vivement? Que faire si notre jumeau a des droits que nous n'avons pas? Foro Farrokhzade perd pied, frôle la folie. Elle décide brutalement de retourner dans cet Iran qu'elle a fui devant un arbre mort au jardin du Luxembourg. Quand son amant Cyrus lui propose d'enfin rencontrer Marie de Régnier en fin de vie dans son appartement parisien, Foro ne parvient pas à monter les étages jusqu'à chez elle tant elle a rêvé son personnage, tant elle a été habitée par son ombre. La poésie de Foro Farrokhzade se refuse à la réalité, tente de s'extraire du lieu qu'il a vu naître. Peut-on seulement guérir de son pays natal ? Abne Chalmani est la passeuse qui permet au lecteur d'assister à deux déchaînements, sans intrusion, avec la délicatesse de la raconteuse d'histoire. Sa pudeur est presque celle de la biographe, mais la présence poétique de Foro Farrokhzade, de Marie de Régnier et des fantômes de la Belle Époque vient brouiller les faits et nourrir les fantasmes. Le roman se lit d'une traite, goulûment, presque comme une enquête, une filature à travers les audaces et les radicalités, car Chalmani l'écrit « Il n'y a pas de demi-monde en Orient, il n'y a pas de marche-pied vers l'autonomie, la pute ne côtoie pas la mer. »
Merci Esther Taillard donc pour cette chronique. Maître Beer, le temps nous presse. Une simple mention et vous reparlerez du livre une autre fois.
Oui, bah je voulais parler d'une jeune autrice recrutée par Christophe Siebert pour sa collection des Nouveaux Interdits chez Mediamille, Claire von Corda, dont le deuxième roman Obsession vient de sortir, avec la réédition du tout premier Insatiable.
On vous retrouve pour en parler bientôt. Merci Yannick Hanel.
Merci à vous.
D'avoir été l'invité de Mauvais Genre ce dimanche. Je rappelle, je conseille et il faut s'abonner à Aventure, dont le numéro 1 vient de paraître avec formidable enquête. Écrivez-vous des scènes de sexe, c'est aux éditions Gallimard. Vous avez également postfacé Giacomo Joyce, une nouvelle traduction de Georgina Takou chez Multiple. Et puis lisez, relisez, faites lire et faites relire. Écrit érotique de femme, une nouvelle Histoire du désir, c'est aux éditions Bouquin. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Anthony Thomasson, Claire Poissignon, Céline Duchesne, Esther Taillard, Claire Martin-Lugard, Christophe Beer et François Geulier vous remercient d'avoir suivi cette émission.